l'effritement ou l'effondrement de pans entiers de cette culture qui se transmettait, on va dire, de manière relativement linéaire. Chaque génération faisait un petit peu sa crise, évidemment, il faut que jeunesse se passe, mais tout rentrait dans l'ordre et grosso modo, on transmettait des valeurs relativement admises. Et voilà que ces impératifs, déjà au siècle des Lumières, sont un petit peu remis en question. Le siècle des Lumières remet à l'honneur cette quête du bonheur, ce qu'on appelle à l'époque d'un mot grec, eudaimon veut dire heureux. Alors on parle de l'eudémonisme, qui devient quelquefois l'hédonisme, c'est-à-dire la confusion entre le bonheur et le plaisir, la recherche du maximum de plaisir. Et Rousseau, au XVIIIe siècle, dit, mais au fond, c'est pas si simple. Dans les rêveries du promeneur solitaire, il dit, au fond, les petits bonheurs, les petits moments de joie, fugitifs, furtifs, fugaces, ne suffisent pas, mis bout à bout, à faire le bonheur, parce qu'on imagine quand même le bonheur comme une réalité à la fois simple, continue, permanente, et on voit bien que même si on est ouvert au bonheur, ce bonheur nous échappe. Et à la fin du 18e, il y a Kant qui remet au goût du jour un impératif, puisque tous les autres impératifs venus de la culture, de la famille, des ancêtres, de la généalogie, c'était un petit peu essoufflé, et il parle de l'impératif catégorique, il remet le devoir au centre. Mais ça, ça ne plaît pas ni au XIXe siècle, ni au XXe siècle, ni à nous, parce qu'on trouve que c'est finalement un impératif un petit peu abstrait, et donc la question du bonheur, de manière lancinante, revient, et au fond de nous, c'est quand même un impératif, c'est-à-dire qu'on a l'impression que si on n'est pas heureux, notre vie est ratée, qu'on est passé à côté de quelque chose, et que ce qui fait finalement la saveur et le sens de la vie, c'est le bonheur. Alors, si nous avons choisi ce thème, c'est que sûrement nous sommes convaincus que c'est probablement intéressant de chercher le bonheur, mais quel bonheur? Voilà. Je relisais tout à l'heure un numéro des études qu'on m'a prêté, c'est le numéro de mars 2012. Vous pouvez peut-être le trouver ou je vous le prêterai. Et il y a un article qui s'appelle Contre le bonheur. Alors, on parlait tout à l'heure de contre-Venise, mais voilà, c'est un peu un exercice de style. Et c'est Laurence de Villers, vous connaissez peut-être cette philosophe qui est aussi éditrice, qui écrit Contre le bonheur, mais non pas contre la volonté d'être heureux, bien sûr, mais contre un bonheur totalitaire, un bonheur qui serait préfabriqué, un bonheur que nous vend la publicité, un bonheur que nous vend la com, et qui évidemment nous échappe toujours. Et je crois que les textes bibliques nous invitent justement à découvrir qu'il n'y a pas de programme de bonheur, qu'il n'y a pas de programme unique. Que d'une certaine manière, Dieu, dans ses promesses, ouvre un espace de vie, de liberté, et que le bonheur que les textes bibliques veulent nous suggérer, est un bonheur à la fois tout proche de nous, tout près de nous. Un peu comme ce royaume de Dieu dont parle Jésus, au chapitre 17 de Luc. Le royaume est parmi vous, il est en vous. Et finalement, le royaume, c'est l'autre nom du bonheur pour ceux qui se veulent disciples. Donc voilà, c'est un petit peu cette recherche du bonheur que nous allons entamer ensemble. C'est bien qu'on le fasse à partir d'un psaume. C'est intéressant la boutade de Marc parce que effectivement, je crois que lorsqu'on lit des textes bibliques, il ne faut jamais croire que la vérité y est cachée. Et qu'il faudrait avoir la bonne technique exégétique, la bonne technique d'interprétation, tout l'arsenal, tout l'appareillage herméneutique ou rabbinique ou théologique pour pouvoir accéder à un sens qui serait là. On a tous cette tentation, c'est une tentation, c'est déjà la tentation du fruit interdit. On croit que la vérité est tapie dans la Bible, qu'elle bruisse au milieu de ses pages, et on l'imagine comme un objet. À posséder encore une fois, finalement, à consommer presque. Hein. Or, il n'en est rien. La vérité, et les rabbins le savaient depuis toujours, et Jésus le sait aussi, ne se constitue que dans dans le dialogue, dans l'échange, dans la causerie, la conversation qu'on entreprend avec ces textes. Ça veut dire que chacun de nous est autorisé à converser avec ces textes, à les contredire, à les faire parler, résonner en lui.
Oui, merci beaucoup pour cette mise en perspective à travers la philosophie et à travers les siècles. Peut-être particulièrement à notre époque où la crise ne semble pas être derrière mais devant finalement. C'est peut-être une époque où on craint justement pour le bonheur et où on a toujours forcément cette tentation sur notre repli sur soi, c'est de dire voilà, je veux me cramponner à mon petit Éden finalement, à mon petit paradis. Et je crois qu'effectivement dans la Bible, cette remise en perspective est particulièrement utile pour voir que le bonheur est de toute façon toujours promis et que c'est pas forcément que justement ce recroquevillement sur soi, je pense qu'on le verra aussi bien dans le psaume 4 que dans la Genèse, que dans ce récit de la chute, ce recroquevillement sur soi est la pire des choses qui puissent nous arriver et qui puissent arriver à notre bonheur en fait. Mais peut-être qu'on peut commencer par lire ce psaume 4 en fait. Sinon je peux vous le lire, hein, comme ça c'est pas très long. Hein. Du chef de chœur avec instrument à cordes. Je ne sais pas pourquoi il manque psaume de David, mais bon, c'est dans la traduction, ils l'ont fait sauter. Quand j'appelle, réponds-moi, Dieu, ma justice. Dans la détresse, tu m'as soulagé, par pitié, écoute ma prière. Homme, jusqu'où irez-vous dans le mépris de ma gloire, l'amour du vide et la poursuite du mensonge? Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle. Quand j'appelle le Seigneur, il m'écoute. Frémissez et ne péchez pas. Sur votre lit, réfléchissez et taisez-vous. Offrez les sacrifices prescrits et comptez sur le Seigneur. Ils sont nombreux à dire, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, Seigneur. Tu m'as mis plus de joie au cœur qu'au temps où abondaient leur blé et leur vin. Pareillement comblé, je me couche et je m'endors, car toi seul, Seigneur, me fais demeurer en sécurité. Alors moi, ce que je remarque, si vous voulez, déjà, c'est cette histoire de recroquevillement sur soi, si vous voulez. C'est quand même assez personnel, ce témoignage de David dans ce psaume. Il parle à la première personne, son expérience de Dieu, finalement, et son expérience de la joie que donne Dieu. C'est lui qui, dans le psaume 23 ou 22 pour les catholiques, bon là, vous savez, il y a des très graves difficultés de l'œcuménisme, c'est une différence d'un numéro dans certains psaumes. Bon là, on marche sur du velours parce que le psaume 4, c'est le même numéro.
Ça se gâte après.
Ça peut se gâter après et ensuite ça part et ça revient. Bon, les problèmes terribles d'un numéro de psaume. Donc dans le psaume 22 et demi, 22-23, c'est David qui dit
« Joie et bonheur.
Le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie, si vous voulez. » Alors qu'il vient de parler des vallées de l'ombre de la mort. Et là, c'est pareil, si vous voulez. Il parle finalement d'un manque de blé et de vin dans un certain sens.
Manque de blé.
Manque de blé. Manque de vin. Et il parle de cette joie qu'il a dans le cœur. Et moi, on y voit volontiers, si vous voulez, en écho, le Christ qui dit, donc dans Jean 15, si vous voulez, quelques heures avant d'être arrêté, il dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Et c'est comme ça, c'est dans cet amour mutuel, finalement, s'aimant les uns les autres, que vous aurez la joie parfaite.
Que ma joie soit en vous et qu'elle soit parfaite.
Enfin, que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète, soit en plénitude. Alors ce que je remarque, oui, c'est que là, qui nous fera voir le bonheur, en fait, je remarque quand même le pluriel, si vous voulez. Et c'est vrai que cette interrogation fait lever sur nous la lumière de ta face, elle est au pluriel. Et c'est vrai que quelque part, il y a une invitation à se dire que c'est difficile d'être en bonheur tout seul, finalement, même si on le voulait. Je crois que c'est une peut-être des leçons aussi du récit de la Genèse. Mais là, finalement, dans ce psaume 4, on va trouver, je crois, quelque chose qu'on retrouve souvent dans les psaumes. C'est un peu une typologie, c'est-à-dire, il y a la détresse. La détresse, c'est quand on est vraiment la gorge serrée, on est écrasé, on est serré dans une tenaille, finalement. On est vraiment mis à l'étroit. On est pris à la gorge. Tu m'as soulagé, tu m'as mis au large. Jusqu'où irez-vous dans le mépris de ma gloire? C'est comme si c'est Dieu qui parlait, finalement. Hein. L'amour du vide, du néant, et la poursuite du mensonge, alors qu'il y a une autre possibilité, c'est quand je t'appelle, quand j'appelle, réponds-moi, Dieu, ma justice. Donc, vers quoi est-ce qu'on veut aller, finalement? Quelle est la visée? Est-ce que c'est le vide, le mensonge? Est-ce que c'est le dos tourné à Dieu pour se tourner vers le gouffre? Ou si c'est le regard, l'espérance tournée vers la source de la vie? On a cette dialectique qu'on retrouve au milieu, hein, cette recherche du bonheur effréné et en même temps l'expérience de la trace du bonheur et de la joie déjà présent dans notre existence. Là, il y a quand même un peu encore une sorte de dialectique, de typologie d'une certaine recherche. Lui, sa recherche, c'est de chercher, c'est d'attendre, c'est d'espérer, c'est de prier pour que la lumière de Dieu vienne éclairer, lumière de sa face, de sa présence, toute proche, quoi, finalement, qui permettra peut-être de mettre en lumière une joie possible, un bonheur possible dans le présent, un bonheur qui était peut-être déjà là, comme tu disais. Un peu. Donc, je trouve que là, il y a un peu une dialectique, si vous voulez, une alternative qui est posée dans la recherche, dans une façon déjà de concevoir peut-être une espérance.
Donc on voit déjà effectivement un paysage qui se dessine sur ce bonheur pour l'homme biblique et donc pour le chrétien, pour le disciple du Christ. C'est très frappant, tu l'as cité toi-même, hein. Tu m'as mis plus de joie au cœur qu'au temps où abondaient leur blé et leur vin. C'est vrai que c'est paradoxal, puisque pour nous, souvent, nous lions le bonheur, l'idée que nous nous en faisons, à l'idée d'abondance, de réussite, de plénitude, de vie comblée. Alors ça peut être comblé de biens matériels, ça peut être comblé... comblé d'années, comblé de descendance, comblé d'honneur, etc. Et tout ça n'est évidemment pas rien. Donc on met le bonheur, effectivement, du côté du blé et du vin, oui, comme tu le disais, de l'abondance, de la réussite, de la plénitude, de l'épanouissement. Et on va bien voir que le jardin d'Éden est présenté d'une certaine manière comme celui-là, comme aussi un lieu d'innocence, on y reviendra. Or, le bonheur tel qu'il se dessine à travers les psaumes et à travers aussi le psaume 23 que tu citais, c'est un bonheur qui n'est pas lié justement à cet état d'abondance. C'est un bonheur que l'on peut trouver aussi dans la vallée des ombres de la mort et que l'on peut trouver aussi au désert, puisque rappelons-nous que l'expérience fondamentale du peuple juif, c'est une expérience d'exode que nous avons tous à revivre, une sortie de la facilité. Alors bien sûr, ils le regrettent, l'heureux temps du bonheur apparent, où ils étaient en Égypte, où ils étaient au milieu des idoles, où ils mangeaient à leur faim, où ils étaient aussi esclaves, parce que bien sûr, cette conception du bonheur dans l'abondance, c'est une forme de servitude pour l'homme biblique. Donc il y a cette tension, cette dialectique, qui n'est pas une dialectique abstraite, qui est bien un exode, c'est-à-dire qu'il faut... comprendre que peut-être, effectivement, ils étaient heureux en Égypte, c'est pas le problème. Mais
souvent, oui.
Voilà,
et ils regrettent les
viandes grasses de l'Égypte et ils se disent pourquoi on a suivi Moïse, parce qu'effectivement, après c'est le désert, c'est l'aridité, c'est le silence, c'est l'expérience du vide, du manque, du creux. Or c'est pourtant là que Dieu se révèle. Je pense quand même que Dieu a un rapport avec le bonheur. Et donc l'expérience de la foi et du don de la loi se fait précisément dans cette expérience du vide, du manque, de l'aridité, de la sécheresse et de la nostalgie aussi. Hein, vous voyez, donc voilà qui sanctifie un peu nos nostalgies, parce qu'on vit avec ça. Et il y a tout un discours qui culpabilise la nostalgie. Et, La nostalgie est une norme pour notre action, c'est pas bien. Mais en même temps, c'est le désir de l'homme. La nostalgie du paradis perdu, on va la trouver avec précisément le récit de la chute. Et il y a cette tentation, bien sûr, de regarder le passé comme un lieu de merveilles, un lieu bondé de merveilles, et ça n'était probablement pas faux. Il est probable que l'expérience du désert, en termes de bonheur, fait faire au peuple hébreu tout un travail intérieur pour comprendre ce qu'est le bonheur. Il y aura aussi l'expérience de l'exil à Babylone. Ce sont des expériences de déplacement et de creusement de ce que peut être le sens de la vie, d'une vie réussie, d'une vie digne de Dieu, etc. Mais de fait, voilà, ce que nous dit la Bible, c'est qu'il y a cet exode. Ce n'est pas du tout une condition, parce qu'encore une fois, le bonheur ne s'impose pas, il n'y a pas un parcours tracé d'avance, il n'y a pas un parcours unique, mais le récit qui est fait, puisque la Bible pense à travers des récits, elle ne pense pas à travers des concepts, elle fait une théologie narrative. Le récit qui nous est fait de cet exode nous montre déjà la complexité du bonheur, et qu'il y a un bonheur peut-être aussi dans les larmes, dans le manque, dans la déréliction.
Oui, moi je suis tout à fait d'accord, mais c'est-à-dire que le désert c'est un passage.
C'est un passage.
Et c'est un passage, c'est-à-dire c'est le temps du désert, mais vers un pays où coule le lait et le miel, un pays d'abondance.
Mais il coulera jamais totalement.
Il coulera jamais totalement, mais quand ils envoient les émissaires, ils reviennent alors, avec des grappes de raisins qu'il faut porter à deux, tellement elles sont énormes. Et c'est quand même un pays d'abondance, c'est un pays de danger, mais d'abondance. Mais effectivement, je ne crois pas que. Mais ça, on va le voir aussi dans la création, je crois. Contrairement à d'autres philosophies ou d'autres anthropologies, c'est-à-dire d'autres conceptions de la vie humaine et du bonheur, le bonheur n'est pas dans la privation et dans le manque pour la Bible, je crois. Il y a des
Dans les
passages,
deux.
il est dans les deux, il y a des passages utiles où l'on est dans la conversion, où on est dans le travail sur soi, dans le retrait du monde. Pour faire place à un supplément d'être, on fait un vide pour laisser place à une parole qui nous dépasse. Et ça, c'est toujours des moments difficiles, c'est-à-dire que c'est une parole qui nous remet en cause, qui nous bouleverse, qui provoque, comme quand on était à l'adolescence, on a un peu mal partout, c'est-à-dire c'est des crises de croissance, en fait. Il faut que les os, les articulations, il faudrait demander au médecin, moi j'ai aucune idée, mais on a un peu mal partout quand on grandit. Donc si vous voyez, je veux dire, toute étape que nous franchissons dans notre existence est toujours un peu douloureuse, angoissante, l'adolescence, le mariage, c'est toujours des étapes difficiles, le deuil, mais ça ouvre vers quelque chose. Et je pense quand même que la bénédiction biblique, elle n'est pas sur la pauvreté, si vous voulez. Elle est quand même une bénédiction qui est aussi une abondance de vie. Je ne crois pas que la Bible ait quelque chose contre le bonheur aussi, le bonheur des sens, le bonheur qui passe à travers une vie dans l'abondance. Mais ce n'est pas là qu'est la source du bonheur. Ce sont des bénédictions collatérales, si je puis dire. C'est des bénédictions secondaires, des bénédictions. Je crois que ce qui est mauvais, c'est de placer la recherche de cette abondance-là. L'abondance du blé et du vin comme étant la source du bonheur. Là, on se plante complètement et du coup, je pense que notre vie est tellement tordue que, on est forcément dans le drame existentiel, spirituel et parfois même aussi humain parce que c'est des choses qui, de toute façon, sont temporaires. Mais l'abondance, c'est pas contre le bonheur. L'abondance matérielle, l'abondance, le plaisir. David était aussi quelqu'un qui était dans la louange pour ce qu'il y a de beau dans l'existence. Le Christ était connu pour critiquer comme quelqu'un qui a un bon coup de fourchette et le coude qui se lève facilement. C'est un mangeur et un buveur, lui disait-on, contrairement à d'autres champions de l'ascèse. Peut-être comme Jean-Baptiste. Donc, oui, les déserts, c'est des moments où on prépare à faire place à un supplément d'être qui vient de Dieu, et c'est bien là qu'est la source du bonheur, mais je ne voudrais pas qu'on laisse penser que l'idéal chrétien ou le bonheur réside nécessairement dans la pauvreté matérielle. Ce n'est pas la question. La question est tout à fait ailleurs. Ça, c'est un accessoire. C'est accessoire. C'est pas tout à fait accessoire parce que franchement, quand on n'a pas 1000 calories par jour, concrètement, pour nourrir son corps, la tête marche pas si bien. La tête ne marche pas si bien. Si vos enfants n'ont pas de quoi manger, vous ne pouvez pas être facilement dans... on ne peut pas être facilement, si vous voulez, dans une élévation spirituelle, dans une paix, une recherche de Dieu, une louange, aussi facilement. Et c'est pour ça, je crois, que quand même la solidarité matérielle est quand même fondamentale. Si ce n'était pas fondamental, si le dénuement matériel permettait de trouver plus facilement le bonheur, à ce moment-là, il faudrait dire alléluia, que les pauvres restent pauvres et qu'on brûle l'argent. Ce n'est absolument pas la question. Dans la Bible, on est invité quand même à une solidarité de cœur, de foi, mais aussi matérielle, très concrète. Parce que, bon, si l'argent ne fait pas le bonheur, la pauvreté encore moins, si vous voulez, ça c'est sûr. Donc c'est une pauvreté, je pense, qui est élevée. C'est une pauvreté en heureux les pauvres, on le verra après, hein, heureux les pauvres en esprit, c'est ceux qui se reconnaissent pauvres en esprit et qui demandent à Dieu son esprit. Mais c'est pas heureux les pauvres en sous, si vous voulez. On sait très bien que c'est faux. Il faut de la solidarité, il faut un minimum pour pouvoir être heureux. Ça, je le pense quand même sincèrement. Mais, bon, je sais pas.
De fait, il y a tout un lyrisme juif, tout un lyrisme biblique, hein, de la vie terrestre, enfin du bonheur humain.
Oui, oui.
On a prévu de parler du Cantique des Cantiques, etc. Dans l'expérience d'Exode, moi, ce que je vois surtout, c'est la tension entre une abondance qui est une abondance dans la servitude, l'Égypte, et dans l'idolâtrie, et l'abondance plus eschatologique, effectivement, de la terre promise. Mais la terre promise est une terre concrète. Elle n'est pas seulement, bien sûr, rêvée. C'est ça qui est intéressant. Le bonheur n'est pas un bonheur futur. Le bonheur biblique n'est pas ce qu'on en a fait dans un certain rigorisme, notamment occidental, bien sûr. L'idée que ce monde-ci est une vallée de larmes et que, bien sûr, on sera récompensé et qu'il faut, avec... fatalisme et résignation, accepter son sort pour un jour être récompensé. Alors ça n'apparaît nulle part dans la Bible. Mais en revanche, il y a quand même une tension temporelle, c'est-à-dire que c'est vrai que le judaïsme peut bénir la richesse, quelquefois d'ailleurs on a caricaturé le judaïsme dans ce sens. Le prophétisme juif est toujours là pour rappeler, on a encore entendu le prophète Amos dernièrement nous dire que la bande des vautrés n'existera plus et que ceux qui ignorent... parce que de fait, il y a ce poison caché dans la possession et dans l'abondance, que la richesse peut endurcir le cœur. La richesse n'est pas mauvaise en elle-même, c'est pas la possession qui est mauvaise, c'est que l'usage peut pervertir, détraquer le cœur de l'homme et l'endurcir à la pauvreté ou au manque et à la misère de l'autre. Et dans cette expérience, effectivement, d'Exode, le désert n'a pas le dernier mot, bien sûr, mais ce qui va combler risque toujours d'être décevant. Et c'est le problème, hein, d'Israël avec sa terre. C'est-à-dire que sa terre en elle-même est aussi le symbole d'autre chose. Alors c'est difficile à dire, quelquefois c'est la terre, quelquefois c'est le temple, quelquefois c'est la loi, mais il y a toujours, la présence de Dieu échappe toujours. La présence de Dieu n'est jamais sous le signe d'une plénitude qui comble, il y a toujours un appel d'air qui fait que ce peuple se projette dans un avenir et crée une histoire, et crée l'histoire d'une certaine manière, parce que ce qui va combler est toujours au bout du désir. Mais de fait, le désir ne s'arrête jamais, on le reverra. Il y a une vocation à la béatitude, et les béatitudes, en hébreu, c'est heureux, c'est celui qui se met en marche, qui accepte de sortir de soi, qui ne se replie pas sur son petit microcosme, mais qui crée du mouvement, qui crée de l'histoire, etc. Alors, je pense que la leçon, du coup, de ce lyrisme juif, bien sûr, hein, de la beauté du monde, des enchantements du monde, etc., des enchantements qui ne sont pas païens, c'est ça qui est très beau dans le judaïsme, c'est que les réalités sont séduisantes, mais elles sont toujours vues comme un don. Alors, justement, c'est ce qu'on va voir dans le texte de la Genèse, et donc, s'il y a un don, il y a un donateur. On ne peut pas en jouir comme si on se coupait de ce donateur qui est Dieu. Et du coup, le risque, c'est de faire dépendre son bonheur de ce qui nous arrive au fond. C'est-à-dire de tomber comme les peuples païens, de tomber dans le fatalisme, de tomber dans la peur de ce qui peut arriver, de la tuile qui peut-être m'est réservée au coin de la rue, et de tomber dans cette hantise de la roue de la fortune. Et ça, c'est une vision païenne de l'histoire. Le peuple juif, justement, ne se laisse pas enfermer. Donc il ne fait pas dépendre son bonheur uniquement des possessions, des biens, de ce qui peut arriver, c'est-à-dire la pauvreté un jour, le lendemain la richesse. On connaît tous Job, justement, qui reste d'une équanimité, comme on dit, d'une égalité d'âme. Alors bon, c'est peut-être trop beau pour être vrai, mais il y a quelque chose là qui... Et je me souviens de t'avoir entendu prêcher il y a quelques années dans ce sens, d'ailleurs, sur justement que le bonheur ne dépend pas. Pour le croyant, juif ou chrétien, ne dépend pas uniquement d'une extériorité. Le bonheur a sa source ailleurs.
Donc peut-être qu'on peut attaquer
Le texte.
le texte Genèse 3, Genèse 2, Genèse 3, on a mis un peu le début quand même de cette deuxième création. Vous savez que dans la Bible, c'est d'ailleurs assez épatant, il y a deux ou trois récits de création qui sont enfilés comme des perles. Ça montre leur ouverture d'esprit aussi. Et bon, il dit, il y a plusieurs théories, plusieurs témoignages. Eh bien, on les juxtapose plutôt que de chercher à harmoniser. Là, c'est la deuxième création avec le début à partir du chapitre 2, verset 7 du livre de la Genèse, avec le Seigneur Dieu. Alors, Seigneur Dieu, vous savez que quand il y a Seigneur comme ça en capital, ça, c'est la traduction œcuménique de la Bible. C'est le tétragramme Yahvé ou YHWH, vous savez, dans la Jérusalem. Il faut toujours se dire que quand il y a je crois que c'est une catastrophe de traduire ça le Seigneur, parce que le Seigneur, on imagine un grand roi, on imagine quelqu'un de puissant, si vous voulez. C'est plus Dieu qui signifie ça, en fait, qui signifie la puissance. Elle, c'est le Dieu fort, c'est la racine de la force. Alors que l'éternel, ou alors tant qu'à faire, laisser YHWH, c'est sur la racine du verbe être, et c'est souvent au contraire un Dieu très maternel, si vous voulez. C'est le Dieu de la tendresse, c'est le Dieu qui pardonne, c'est le Dieu qui aime, qui guérit, qui console. Donc l'avoir traduit Seigneur, ça correspond à une tradition ancienne juive de ne pas lire le nom de Dieu. C'est assez tardif quand même qu'ils ne lisent pas ce YHWH. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de noms. Par exemple, Netanyahou, il prononce le Yahou, ça veut dire l'éternel ou Yahvé donne. Yahou, c'est Dieu. Donc, il le prononce dans les noms propres. Ils font semblant d'avoir oublié comment ça se prononce et ils refusent de le prononcer quand c'est liturgique. Et ils mettent à ce moment-là souvent soit Hachem, le nom, soit Adonai, le Seigneur. Moi, je trouve que le Seigneur, ça rend mal compte de ça. Il faut s'imaginer toujours... Je dirais presque la mère, si vous voulez, la source de l'être. En tout cas, c'est un verbe, c'est pas une fonction comme ça. C'est la source de l'être, c'est celui qui donne à être, celui qui est, c'est ça. L'Apocalypse, il traduit ce mot par celui qui est, qui était et qui vient. Il le traduit comme ça, par trois verbes, finalement. Et ça, je crois que ça rend bien justice à ce... Alors voilà, le Seigneur, il faut s'imaginer, c'est ce Dieu... qui est une tendre maman, en fait.
C'est la même racine que le verbe être, mais...
Je suis, je serai, si vous voulez. Je suis. Je suis, mais il n'y a pas... Où je suis, deux points, je suis, en fait. Parce que juste après, dans Exode 3, 14, il met, voilà, celui qui s'appelle Je suis m'envoie vers vous. Donc le nom, c'est Je suis, si vous voulez. C'est Je suis, mais sauf que les temps hébreux rendent mal compte de cette des temps français ou grecs. Donc c'est pour ça que l'Apocalypse traduit en le déployant, si vous voulez, dans celui qui est, qui était depuis toujours et qui vient, c'est-à-dire qui est toujours à venir en même temps.
En hébreu, c'est un inaccompli. C'est-à-dire que voilà, il n'y a pas de borne un peu comme l'aoriste en grec. Oui, et le nom Yahweh, parce que c'est ça en fait, qu'on a vocalisé ensuite, Yahweh, Jéhovah, etc., était prononcé seulement par le grand prêtre lorsqu'il entrait pour Kippourim, hein, pour Yom Kippour, pour le jour des expiations, il entrait dans le Saint des Saints.
Dans le second temple, mais avant...
Ah oui, après l'exil, bien sûr. Oui,
avant,
oui, oui,
ça se disait, naturellement, puisque vous voyez, il reste les noms...
C'est récent, c'est au VIe siècle.
On dit Nathan-Yahou, on sait très bien que ça veut dire Yahou donne, donc l'Éternel donne, ou le Seigneur donne. Ou bien Yohanan, c'est la grâce de Yo. Donc, L'Éternel, c'est pas mal, ça a été inventé par les humanistes comme traduction, donc au XVIe siècle, je sais, par Erasme, par, ouais. Et c'est assez finement joué, parce que c'est pour essayer de déplier cette source de lettres, si vous voulez.
Enfin, mais c'est un mot grec, enfin c'est un mot d'origine, c'est Ionios, quoi. C'est ça qui peut gêner. C'est que du coup, le risque avec l'Éternel, moi j'aime beaucoup, hein, parce que ça a un côté très... mais l'éternité, si j'ose dire... est un peu piégé parce que c'est un concept qui vient de la philosophie grecque. Pour nous, on pense qu'on sait ce que c'est l'éternité, c'est ce qui n'est pas le temps, mais de fait, c'est pas si simple parce que du coup, on risque, en disant l'éternel, de faire de Dieu le dieu des philosophes. Et Luther est sévère contre le dieu des philosophes, Pascal aussi. Et parce qu'on croit que par cet attribut, on le définit. Mais j'aime bien la mer. Alors ça, j'avais jamais pensé, mais tu vas faire plaisir à beaucoup de personnes ce soir. Parler de Adonai comme étant la mer.
Non, mais vous regarderez, dans la Genèse en particulier, c'est souvent une figure très maternelle.
Chez Goethe, il y a les mers.
Ouais. Donc... Pardon ? Dieu, Père et Mère, oui. On avait vu ça à propos de fils et filles, en particulier la bénédiction donnée à Jacob, hein, où l'Éternel allait hein, et donne naissance avec son amour. Donc, quel même mot que utérus, hein. Amour en hébreu, c'est le même mot que utérus.
On voit la représentation peut-être sur des vitraux, d'une femme qui est en train d'allaiter deux enfants.
Oui. Mm-hmm. Oui, oui, oui. Oui, ou sans vouloir être trivial, mais la mandorle, vous savez, souvent le Christ est dans une amande, mais c'est aussi l'image du sexe féminin, si vous voulez, qui donne naissance au Christ. Et donc c'est vraiment Dieu qui donne naissance à la vie. C'est quand même utile de se rappeler cette figure féminine de Dieu pour se rappeler l'évangile et la tendresse de Dieu. Mais quand on met ça ici, si vous voulez... C'est pour dire que d'emblée, il y a Dieu qui est invoqué comme créateur, mais aussi l'Éternel, comme si déjà il savait qu'il y aurait la faute. Et donc le pardon précède même pratiquement. Ouais. Un seul geste qui est celui du pardon déjà et celui de la création, où Dieu modèle l'homme. Alors là, pour ce qui est de l'éternité, on pourrait dire, puisqu'on en parle, vous voyez, l'homme par contre, l'humain a une origine, il n'y a pas... un morceau d'âme éternelle qui viendrait de l'éternité passée, qui vient malencontreusement tomber dans la boue du sol et qui pourrait, donc par le salut, pouvoir se ressortir dans le spirituel. Non, c'est une âme, au contraire, c'est une créature tirée de la boue du sol et... qui devient une âme vivante, qui devient un être vivant, donc qui est issu, qui apparaît à ce moment-là. Et donc c'est pour ça que l'homme ne peut pas dire « je suis vraiment » au sens propre, parce qu'il n'est pas sa propre origine, ou il n'est pas éternel, il a été créé, comme tu disais, pour le don. Il y a un donateur, l'homme a été créé, l'humain a été créé, donc il y a un créateur dont nous sommes issus, dans un certain sens, dont nous sommes la créature.
Ce qu'on peut faire, c'est lire paragraphe par paragraphe et puis s'arrêter sur... Parce que c'est tellement riche et tellement dense.
D'accord. Comment fais-tu ?
Valérie, tu peux lire le premier paragraphe et puis...
Merci.
Le Seigneur Dieu modela l'homme avec de la poussière prise du sol. Il insuffla dans ses narines l'haleine de vie et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait formé. Le Seigneur Dieu fit germer du sol tout arbre d'aspect attrayant et bon à manger, l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Le Seigneur Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour cultiver le sol et le garder. Le Seigneur Dieu prescrivit à l'homme : tu pourras manger de tout arbre du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, car du jour où tu en mangeras, tu devras mourir.
Alors, ce sont des textes qu'on connaît presque par cœur. Vous savez à peu près l'usage qui en a été fait, l'idéologie qui a été tirée donc de ce récit, avec l'interdit. Voilà, on a vu dans ce texte, seulement à partir de saint Augustin, hein, un récit fondateur du péché originel. Je pense qu'il faut d'ailleurs déblayer un peu, parce que je pense qu'on a tous des schémas culturels effectivement dans la tête. Donc péché originel, culpabilité de la femme, et lien obscur entre le péché originel et la sexualité. En gros, c'est les trois schémas qu'on a en tête. Et pour le rachat du péché originel, le sacrifice du Christ, quel que soit le raffinement théologique avec lequel on envisage la chose, bien sûr, ça peut être de manière très, très féodale, comme a pu le faire Anselme, ou de manière plus médiatisée. Mais en tout cas, voilà le schéma, l'économie du salut, tel que un chrétien qui a été catéchisé peut la formuler. Alors, on va faire une lecture, j'imagine, des textes qui ne vont pas forcément dans ce sens-là. Hein. Il y a peut-être parmi vous des gens qui sont familiers de Marie Balmary. Marie Balmary, qui était à la fois psychanalyste et exégète, qui pense que précisément la vérité de ces textes, une fois admis que leur vérité scientifique est quand même d'un autre ordre, elle pense que la vérité peut se faire au carrefour précisément de la psychanalyse, c'est-à-dire l'étude des êtres parlants, des êtres de langage et du sens qu'ils introduisent dans un discours, de l'analyse des textes bibliques et donc de la langue originelle, elle est aussi hébraïsante, et puis du dialogue, puisque Marie Balmary anime des groupes. Et donc, elle pense que la vérité contemporaine de ces textes peut émerger d'une connaissance de l'hébreu, d'une connaissance de la psychanalyse et de la pratique du groupe. Alors, si vous connaissez un peu la pensée de Marie Balmary, qui a écrit beaucoup de livres, allez lire ses livres, parce que c'est très intéressant. Évidemment, elle bat en brèche un certain nombre de clichés et de stéréotypes et de préjugés que l'on peut avoir sur ces textes.
Oui, alors effectivement, je crois que cette idée de péché originel, mais même de quoi parle ce texte, si vous voulez ? Est-ce que c'est un texte qui parle du passé ? Franchement, je ne crois pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un monsieur Adam et un madame Ève, d'ailleurs. Le mot Adam, comme il est par exemple au verset 17, ils ont mis Adam, mais il y a simplement marqué l'homme. Et l'homme, bah, c'est vous et c'est moi, si vous voulez. On est Adam et Ève, donc ce texte qui parle de la création de l'homme, d'un homme vraiment fait de la poussière du sol, rempli par le souffle de vie de Dieu, et qui soit dans le jardin d'Éden pleinement, c'est-à-dire jardin d'Éden, là aussi, pourquoi ils n'ont pas traduit Éden ? Ça veut dire simplement les délices, si vous voulez. Donc c'est le jardin des délices, c'est le jardin, c'est une sorte de parc clos de murs, protégé par Dieu. Donc on est dans un jardin des délices, dans un endroit protégé, et plein de bonheur et de et un homme pleinement conscient de en même temps de sa vocation à cultiver et à garder à cultiver le sol et à le garder au verset 15. Donc plus conscient de sa vocation à être créateur lui-même Donc ça, ça ne parle pas du passé, si vous voulez. Ça parle de l'avenir. Ça parle de l'avenir de la création et du projet de Dieu pour que chacun de nous puisse être en même temps vraiment entouré par cette grâce de Dieu, soit en même temps dans ce bonheur qui nous est promis à tous, à chacun, chacune, et en même temps conscient de cette vocation personnelle particulière qu'il a, d'une façon ou d'une autre, de non seulement de ne pas gaspiller, gâcher cette création, mais en même temps de poursuivre son œuvre, car c'est une création qui est inachevée, puisqu'il faut encore la cultiver. Ça veut dire qu'on est appelé, voilà, il y a du travail à faire pour arracher des ronces, pour planter des plates-bandes, je ne sais pas quoi. Donc c'est cet homme-là, si vous voulez, dans un sens, c'est le Christ qui est le seul et l'unique à avoir peut-être, dans un certain sens, accompli l'espérance d'aboutissement de cette création de Dieu en l'homme, en l'humain. Et pour nous, bah c'est, moi je dirais plus que c'est asymptotique, comme on dirait en mathématiques, c'est-à-dire qu'on peut espérer tout au long de notre existence continuer à se laisser créer par Dieu et se perfectionner dans la foi, l'espérance et l'amour, comme dirait l'apôtre Paul, ou en tout cas dans la qualité d'être, d'humanité, de bonté, de foi. Voilà, bon. Donc ça ne parle pas du passé, ce texte. Ce n'est pas un paradis perdu dans le passé. Et puis ce péché originel inventé par saint Augustin, si vous voulez, je crois que c'est absolument invraisemblable. Bon, l'homme et la femme ont désobéi, et alors, si vous voulez, je le disais au début, ça commence par par Yahvé, par l'Éternel, par le Seigneur. Donc Dieu est déjà prêt à pardonner, et un péché de gourmandise, si vous voulez. Si on devait en vouloir pour 1000 générations parce que quelqu'un dans nos aïeux avait piqué une plaque de chocolat dans le garde-manger, on ne serait pas sorti de l'auberge, si vous voulez. Donc c'est pas, non, c'est pas un péché de gourmandise, une petite désobéissance qu'aurait tout d'un coup provoqué une colère terrible de Dieu qui en garde rancune pour des milliers de générations, ou qui aurait tellement perverti la nature d'Adam et Ève qu'ils transmettraient une humanité moisie. C'est absolument invraisemblable. Donc c'est pas ça, si vous voulez. Je pense que ça parle pas d'une faute du passé, ça parle d'un péché fondamental qui nous traverse tous, si vous voulez. Et ça, je crois que c'est clair que tout être humain a à revivre cette genèse, c'est-à-dire qu'au début, quand il y a un ovule qui est fécondé, nous y revoilà, si vous voulez, puisqu'on parlait de fécondité et d'utérus tout à l'heure, mais voilà, il y a deux cellules, plop, elles se divisent, elles deviennent quatre, mais ces cellules, elles ne pensent qu'à rester en vie et à se reproduire, mais elles sont là pour faire ce job, si vous voulez, pour profiter dans un sens, et il n'y a pas d'altruisme dans la cellule. Et donc, nous sommes issus de ça, c'est-à-dire que nous sommes issus d'être de matière. Un atome, c'est égoïste, si vous voulez. On ne peut pas faire autrement, c'est sa nature. Ces cellules, elles sont vivantes, mais elles sont centrées sur elles-mêmes. Elles ne sont pas dans la foi, l'espérance et l'amour, clairement. Donc, nous devons arriver à vivre cette évolution, cette genèse, cette création de Dieu, recevoir son souffle, recevoir cette vocation, Et ça, ben, c'est tout un travail de genèse. Donc, c'est pas un péché originel du passé. C'est le péché fondamental qui nous coupe d'un bonheur qui est à venir, en fait. Et je pense que c'est de ça dont on parle ici. Et c'est beaucoup plus intéressant comme ça. Et donc, l'économie du salut, il s'agit pas... C'est pas une question d'amnistie. Si vous... C'est ça que je trouve horrible dans cette histoire, cette économie du salut avec une faute ancienne et la nécessité d'un rachat pour que Dieu puisse pardonner et aimer et sauver. C'est épouvantable. Ce serait Dieu qui aurait besoin de se convertir, en fait, par la croix. Alors que non, je crois que la croix est manifestation d'une façon d'être du Christ, qui est dans l'amour de l'autre, qui est dans l'engagement, dans cette conscience d'une vocation particulière à accomplir, qui fait qu'il va au bout de cela et qu'il manifeste ce que c'est qu'être pleinement homme, dans ce désert ultime, j'allais dire, qu'il est appelé à vivre malheureusement, mais que Dieu ne souhaitait pas. Donc je pense que ça parle plus de ça, et effectivement l'anti-chute, comme dirait Pedro Lannes, enfin non, c'est pas un jeu de mots très amusant, mais l'anti-chute, L'anti-péché fondamental, c'est le Christ à Gethsémané qui dit « Non, ma volonté, mais la tienne à Dieu » et qui accepte d'aller au bout. Ou bien c'est Marie recevant l'ange qui dit ben, « Qu'il me soit fait selon ta parole ». Donc c'est eux, si vous voulez, dans les évangiles. C'est construit comme cela, comme étant le type même de l'humanité en Marie et en Jésus, c'est clair. Comme étant un type d'humanité croyante, comme étant l'homme et la femme, finalement, capable de recevoir Dieu et de concevoir dans notre existence quelque chose qui est de l'ordre du Christ, un être pleinement adamique, j'allais dire, l'Adam véritable que Dieu a toujours rêvé, donc dans l'imitation de Marie, dans un sens. Et puis, en Christ, eh bien, avoir ce courage d'être, d'assumer sa vocation, même au détriment de la vie biologique, ce qu'il ne fait pas en rigolant, c'est comme si c'était au contraire bon débarras ou sans importance. Il le fait en pleurant, il le fait dans la tristesse de perdre ses amis, de perdre la beauté de la vie en ce monde, mais par amour, il va jusqu'à dire qu'il me soit fait selon ta parole, finalement, selon ta volonté, et c'est en ça qu'il est, du coup, l'Adam véritable. Je crois que c'est plus ça l'économie du salut, je pense, mais bon.
Donc c'est intéressant, l'origine n'est plus vue comme une origine chronologique, mais une origine, on pourrait dire, anthropologique, c'est-à-dire oui, que l'origine oui. est en nous, et effectivement,
une vocation.
La chute est inscrite en nous, l'égoïsme est inscrit dans chacune de nos cellules, qui ne pense qu'à survivre pour elle-même, c'est normal, tout médecin le dira, chacune de nos cellules est programmée, en elle est inscrite un conatus, hein, une force qui n'est pas celle peut-être de la grâce. Alors, dans le consentement de Marie ou du Christ, bien sûr, il y a là une force qui contredit peut-être cette chute qui est inscrite en nous. Je crois en tout cas là qu'on est vraiment dans l'origine aussi de la foi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose là qui se noue. Soit on n'y croit pas, soit on pense qu'il y a là une force capable de contredire la chute originelle inscrite en nous. Alors,
d'ailleurs, on a mis le Magnificat de Marie pour le 11 décembre effectivement, la joie, le jardin d'Éden apparaît à ce moment-là, dans un sens, cette délice, ce bonheur.
Alors, il y a aussi, pour en revenir au premier paragraphe, puisqu'on était dans il y a l'énoncé d'une loi, vous voyez, hein, tu pourras manger, mais tu ne mangeras pas, etc. Et il y a une interprétation très en vogue aujourd'hui, donc une fois dit que l'interprétation de la rédemption du péché originel est peut-être à relire, ça ne veut pas dire qu'elle est fausse, hein, mais qu'il y a une pluralité de lectures, bien sûr. Jamais il me viendrait à l'idée de contredire saint Augustin ou saint Anselme, hein, mais simplement il faut trouver le langage contemporain qui permet de rendre audible par les gens d'aujourd'hui ce genre de schème, hein, et ne pas présenter l'économie du salut comme une mécanique céleste dont on saurait tout. Au contraire, je crois qu'il faut aborder ces choses avec beaucoup de modestie, de révérence, etc. Donc il y a l'énoncé d'une loi et il y a toute une interprétation en vogue qui dit bien sûr que la seule manière finalement pour l'être humain de devenir conscient de lui-même, de devenir adulte, c'est de transgresser cette loi. Et que la chute, d'une certaine manière, est bonne, parce que cette chute lui permet d'avoir accès non seulement au langage, mais à la connaissance de lui, à la connaissance de ses limites, etc. Alors, c'est une lecture, je le dis, parce qu'elle est facile, et elle est trop facile, à mon avis. Mais je pense qu'elle est aussi à prendre au sérieux. Beaucoup de philosophes, aujourd'hui, pensent que, précisément, c'est une manière de comprendre la loi comme ce qui permet à l'homme de devenir adulte, conscient de lui-même. La loi, finalement, servirait à ceci, et seulement à ceci, découvrir que par sa transgression, elle libère quelque chose, elle fait advenir à quelque chose de neuf. Donc il y aurait une crise indispensable à toute croissance qui est de se poser en s'opposant. Voilà. Et tout être humain devrait faire cette expérience qu'il faut à un moment transgresser, non pas pour jouir sans entrave, mais pour découvrir que le sens de la loi, et qu'on sait très bien qu'un monde sans loi est un monde sans désir, sans plaisir, parce qu'il y a un rapport un peu tordu, un peu, Saint Paul l'a vu, hein, il en parle, entre le plaisir et la transgression de la loi. Alors, je pense qu'on abordera cette question, parce que la question du plaisir reviendra, bien sûr. C'est quelque chose qui est très, très, très vicié, très tordu en l'homme. Et je pense que cette vision de la transgression de la loi et de la chute comme, finalement, justifiant la loi uniquement pour le plaisir de la transgresser, mais aussi de devenir adulte en connaissant ce trouble, ce vertige de transgresser, je crois que c'est une lecture intéressante, hein, mais ça ne peut pas être la seule lecture de ce texte. Alors on va un petit peu avancer, mais pour moi quand même le cœur, enfin je vous dis un peu ce que je pense, mais et je suis assez proche de Marie Balmary là-dessus, je pense que c'est un texte fondamentalement sur la difficulté de devenir être humain, de devenir humain. Voilà, Varillon disait... ce qui n'aura jamais été humanisé ne pourra jamais être divinisé. Et l'humanisation, pas l'hominisation hein, biologique, mais l'humanisation est toujours une tâche difficile. La difficulté de devenir humain et d'en être heureux. C'est-à-dire d'être heureux d'être humain. D'être heureux de son humanité et donc de ses limites. Voilà. On va voir, bien sûr... que le don que fait le Seigneur, que fait Dieu, est un don assorti d'une limite. On va essayer de voir pourquoi il y a cette limite, pourquoi le don n'est pas total, pourquoi il ne permet pas tout, pourquoi il y a cette petite réserve. C'est très intéressant, parce que précisément, c'est dans cette limite que tout se joue. Alors, on va peut-être lire la suite. Tu connais peut-être parce que oui, je ne peux pas.
Merci.
Or le serpent était la plus astucieuse de toutes les bêtes des champs que le Seigneur Dieu avait faites. Il dit à la femme, « Vraiment, Dieu vous a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas afin de ne pas mourir. Le serpent dit à la femme, non, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, possédant la connaissance de ce qui est bon ou mauvais.
Voilà, on peut en rester là.
Alors, moi je dirais que comme souvent, si vous voulez, dans la Bible, on est à la fois la femme, l'homme et le serpent, si vous voulez. On est à la fois, on n'est pas pleinement, serpent, on n'est pas pleinement l'humain chassé dehors, on n'est pas pleinement l'Adam véritable ou la Ève véritable. On est un être complexe. Qui sommes de toute façon tous traversés par toutes ces dimensions. Donc il ne faut pas voir la faute de la femme par rapport à la faute d'Adam et qui est le serpent. Est-ce que Dieu a créé une mauvaise bête exprès pour tenter ? Ce n'est pas comme ça, si vous voulez. Je pense que c'est la nature humaine en elle-même. Elle est habitée de tentations par le fait même que nous avons, par ce souffle qui nous est donné, nous avons... Une liberté, une créativité. Et cette liberté, cette créativité, par définition, elle est habitée d'un désir de faire tout et n'importe quoi. Et donc, il y a une... J'aimais bien ce que tu disais, voilà, une humanisation à vivre. Et qui d'autre... Enfin, je veux dire, Dieu s'y connaît en création. Donc, c'est par lui, on peut s'ouvrir à une genèse qui nous permet... Ben que ce serpent, quel serpent de la tentation que le Christ rencontre même lui, dans le désert, encore le désert. Donc, faut pas, c'est quand même une énigme. Comment est-ce que Dieu aurait créé un mauvais arbre, un mauvais animal? C'est pas possible, alors que Dieu a tout créé parfait. Je veux dire, ce que Dieu crée est parfait par définition. Il y a encore du boulot à faire, mais voilà. Donc je pense que là, non, il faut y voir des dimensions de nous-mêmes. Alors l'arbre, on dit qu'il y a un arbre au milieu du jardin, mais on ne sait pas c'est lequel l'arbre qui est au milieu du jardin, si c'est l'arbre de vie ou si c'est l'arbre de connaissance du bien et du mal. En fait, déjà on dit que c'est au milieu, donc ça veut dire que où qu'on soit dans le jardin, on peut y aller par de toutes les directions, en fait. Et ça, c'est déjà très ouvert, c'est-à-dire qu'on est tous, où qu'on soit dans le jardin, dans l'univers, où qu'on soit dans notre cheminement, on est toujours, on peut toujours aller vers et l'arbre de vie et l'arbre de connaissance du bien et du mal qui est interdit. Il y a beaucoup d'interprètes qui disent en fait que c'est le même arbre, dans un certain sens, si vous voulez, qui est, selon la psychologie, selon notre... c'est l'arbre de l'adoration de Dieu, dans un sens. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui rend assez bien compte de ce texte quand on va lire la suite. L'arbre de vie, c'est quand on place au centre de notre jardin, de notre bonheur, de notre vocation, de notre façon d'être, l'adoration de la source de la vie. On pourrait dire au sens moral ou au sens existentiel, placer la foi, l'espérance, l'amour, l'amour mutuel comme étant... ce qui est source de vie et de bonheur pour nous. On pourrait dire au sens spirituel, c'est placer Dieu comme étant la source et comme étant au-dessus de toute chose. Ça, c'est l'arbre de vie, quand on place ça au centre. Et si on place au centre, comme on va le voir dans la suite, comme Dieu, l'assouvissement de son propre désir, de son propre plaisir, des sens, du goût et de l'œil, un arbre agréable à manger et à voir, et sa propre connaissance, pour la connaissance, à ce moment-là, si on est dans cette adoration de soi-même, de ses fonctions, on est aussi dans une adoration, dans un sens. On adore effectivement un Dieu, mais ce Dieu, c'est l'écorce de nous-mêmes, finalement, une partie de nous-mêmes, et pas la plus noble. Et du coup, nous sommes dans le recroquevillement sur nous-mêmes, et on est dans une régression, on régresse au niveau de la cellule. Et c'est pour ça que c'est un péché fondamental, parce que nous sommes issus de ça, mais nous sommes faits pour aller au contraire vers de l'avant, ou vers le haut, ou d'en haut, en plaçant plutôt au centre l'arbre de l'adoration de Dieu comme source de vie. Enfin, bon, je sais pas, moi, c'est comme ça que je verrais ce texte, si vous voulez. Cette alternative, ce choix que nous avons entre les deux arbres.
Oui, et si on a choisi ce texte, bien sûr, pour le bonheur, c'est à cause de la phrase du serpent, hein, « Vous serez comme des dieux ». Parce que de fait, une conception peut-être adolescente ou simpliste du bonheur peut être ça, voilà, vouloir être comme des dieux. D'ailleurs, le serpent ne dit pas le Seigneur Dieu, il dit Dieu, il transforme un peu, vous voyez, il pervertit, il transforme la réalité. C'est le seul à parler comme ça. Et... il est dans la promesse, justement, de la toute-puissance. La toute-puissance, peut-être d'une forme d'hubris, comme disent les tragiques grecs, c'est-à-dire de mégalomanie, ou en tout cas cette impression qu'il ne faut pas de limite. Précisément, on a vu que l'interdit reposait sur une limite, et là, tout d'un coup, le serpent semble dire que ne pas avoir tout, au fond, c'est ne rien avoir. Et souvent, nous sommes comme ça, ne pas avoir tout, eh bien, ça nous frustre autant que si nous n'avions rien. Et on ne voit plus l'immensité du don qui nous est fait, l'immensité de l'Éden, des jardins, des fleuves, de ce verger, de ce paradis, etc., de ce monde d'innocence avec un rapport bienheureux, bienfaisant à l'environnement, à la nature... cette plénitude, tout d'un coup, tout ça s'obscurcit, se trouble, se ternit, parce qu'ils n'ont pas tout. On leur a interdit un petit quelque chose. Et c'est précisément cette conception du bonheur, comme toute puissance, comme absence de limite, où on veut tout, et si on n'a pas tout, c'est comme si on n'avait rien. Cette conception du bonheur infantile, que Alors bien sûr, évidemment, ça renaît sans cesse en nous, et c'est normal. Enfin, je vais pas jouer je vais pas dire que précisément ce rêve adolescent est forcément mensonger ou illusoire, parce qu'il faut aussi qu'il s'exprime, et d'une certaine manière, il faut lui rester fidèle, mais il faut le transformer. Ce rêve adolescent, il faut le transformer, il doit passer par des deuils, il doit passer par justement des épreuves. Et donc, cette promesse de toute puissance, au fond, le serpent est dans la pensée magique. Il est dans l'idée qu'une consommation, quelque chose d'immédiat, vous savez, c'est des mots qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, l'immédiateté, la consommation, l'accès immédiat, etc., que l'immédiateté par un objet, par un fétiche, va permettre de transformer le réel. Et c'est la promesse des drogues, hein, c'est la promesse qui vont embellir le monde, qui vont rendre plus intelligent, qui vont donner du plaisir. Vous ne mourrez pas, vous connaîtrez le bien et le mal, vous serez comme des dieux, etc. C'est la promesse des sectes aussi. C'est la promesse de certaines thérapies qui vous disent, voilà, vous allez connaître enfin la plénitude, le rapport au monde parfait, il n'y aura plus d'anxiété, plus d'inquiétude, plus de frustration. La frustration, c'est pas bien. Il faut absolument avoir un rapport au monde. Vous savez, sans vouloir pourfendre toute une nébuleuse, New Age, etc., parce qu'il y a aussi des choses évidemment très, très intéressantes, mais quand même, on voit bien que cette sirène, ce serpent-là, ce besoin de tout embellir, de rendre les choses, de croire que le bonheur, ça va être cette plénitude, cet épanouissement absolu dans la sexualité, dans le bonheur, dans le plaisir, dans le... comme une accumulation, comme une espèce de monde entièrement plein, on voit bien que c'est une tentation, alors là, pour le coup, originelle, et qui renaît sans cesse, et qui revient sans cesse. Et précisément, je crois que là, y a peut-être à réfléchir sur ce que peut être le bonheur, puisque... Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce serpent parle. C'est le seul animal qui parle dans toute la Bible.
Il y a un âne.
Oui, il y a l'âne. Oui, mais qui parle pas vraiment. Elle fait comprendre. Et donc, c'est peut-être l'idée quand même que ce serpent, il est au fond très humain. Au fond, c'est une médiation. C'est pour dire que ni Dieu ni l'homme ne sont coupables. Qu'il faut pas chercher de coupables. La culpabilité n'est ni en Dieu ni en nous. Elle est ailleurs. Mais au fond, ce serpent, il a une complicité avec nous parce qu'il parle. Et bien sûr, la psychanalyse y a vu, et je ne pense pas que ce soit complètement fantaisiste, un symbole phallique, au sens où, et je crois que peut-être ne me suivrez-vous pas complètement là-dedans, mais que la femme, pour la psychanalyse, a plus conscience du manque, et précisément plus conscience de la limite. L'homme est plus dans la plénitude, il a tout. Dès la naissance, et la femme est plus du côté justement du creux, et donc elle est plus consciente de ce qui manque. Et je crois qu'en revanche, il faut la disculper une fois pour toutes, parce que si on regarde le texte, vous voyez qu'il manque entre le premier et le deuxième paragraphe, Marc a supprimé la création de la femme. Mais si on regarde le texte, c'est la première fois que je remarque ça. Au moment où la loi est énoncée, au moment où Dieu dit « la femme n'était pas là », effectivement. Et donc la femme a reçu la loi de bonne foi, de la part de quelqu'un, et c'est souvent le cas, les rabbins le disent souvent, que ceux qui n'ont pas reçu la loi directement, ceux qui n'étaient pas sur le Sinaï, par exemple, pour prendre un autre don de la loi, eh bien, on peut être plus indulgent avec eux parce qu'ils ont pu remettre en doute, ou bien la loi a été déformée, ou bien le ton n'y était pas. Peut-être qu'Adam n'a pas mis tout à fait le ton de Dieu, ce Dieu qui se promène dans sa création au souffle du jour. Et or, on sait très bien que la vérité est une question de ton aussi. C'est pas seulement une question de contenu, c'est une question de forme. Peut-être qu'Adam n'y a pas mis les formes, et peut-être qu'au fond, je trouve ça très beau, cette interprétation des rabbins. la loi est arrivée un petit peu corrompue jusqu'à Ève, et qui ne s'appelle pas encore Ève d'ailleurs, qui s'appelle Isha, et l'homme se découvre Ish par rapport à elle, et non pas à l'inverse. C'est très intéressant aussi, hein, quand on lit le paragraphe qui n'est pas cité, l'homme se définit par rapport à la femme, alors qu'étymologiquement, c'est l'inverse, Isha, on a rajouté un suffixe, mais en fait, dans le texte, c'est l'homme qui se découvre homme à partir de la femme, parce qu'il a un vis-à-vis, et c'est l'altérité qui le révèle à lui-même, et qui suscite le langage. Et c'est la découverte de la différence qui est la cause aussi de cette nudité bienheureuse, parce qu'au fond, s'ils n'ont pas honte d'être nus, c'est parce qu'ils sont à l'aise avec leur humanité. Ils n'ont pas honte de s'exposer avec leur manque, avec leur différence. Et la honte ne naîtra que précisément dans la découverte que ses limites, le fait de ne pas tout avoir, le fait de ne pas être comme l'autre, et de le vivre dans la jalousie, dans l'envie, dans la méfiance, dans l'envie de dominer, de séduire, etc. C'est là que tout va se compliquer. Mais cette nudité, c'est l'acceptation de la limite. Et c'est ça le bonheur de l'Éden. C'est pour ça que le serpent est l'animal le plus nu, parce qu'il est exhibe la limite. Et cette limite qui devient insupportable. Et c'est là la chute. C'est que nos limites deviennent insupportables. Notre finitude devient insupportable. Notre manque devient insupportable. Il faut absolument le combler. Il faut résorber. Et voilà. Je ne prétends pas, encore une fois, dire ce qu'est la chute, mais je pense qu'il y a là un lien avec le sujet de notre année. Que pour aller à la chasse au bonheur, il faut déjà comprendre, comme le fait Adam devant Ève, qui on est.
Mais le serpent, moi, je trouve qu'il dit qu'il ne dit rien de faux, en fait. Il dit que de la vérité. Il dit que de la vérité. Vous ne mourrez pas. C'est vrai qu'à la fin, ils ne sont pas condamnés à mort. C'est vrai que, si vous voulez, ils ne mourront pas, en tout cas pas tout de suite. Bon, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. C'est vrai, en fait. Ils seront leur propre Dieu. Le problème, c'est que c'est pas un Dieu qui est bien formidable, mais c'est un Dieu qui fait de l'usage aussi, dans un sens, hein, de se prendre soi-même pour Dieu. Au moins, nous sommes quelque chose de tangible. Donc, la loi que Dieu donne, notre propre désir de l'instant, c'est quelque chose que l'on peut, choisir comme étant la loi et les prophètes. En fait, c'est ce que fait la femme. Hein, donc on peut lire peut-être le paragraphe d'après. Bon, comme il est tout court, je vais vous le lire. La femme vit que l'arbre était bon à manger, séduisant à regarder, précieux pour agir avec clairvoyance. Elle en prit un fruit dont elle mangea, et elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle, et il en mangea. Leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils surent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des pagnes. Donc en fait, je crois que le péché fondamental, c'est ça, c'est choisir comme critère du bien et du mal. Quand on voit que quelque chose est bon à manger, agréable à regarder et précieux pour éclairer notre façon de voir, tout d'un coup de se dire « ben voilà, ça c'est bon ». Mais c'est un critère, en fait, où on se choisit soi-même, ou plutôt son propre plaisir, comme étant le critère de bien et de mal. Et donc on prend ses sens et sa conscience comme étant sa pensée, comme étant l'ultime, comme étant la source de la vie, du bonheur et de la vérité. Le problème, c'est que notre horizon est complètement réduit à ce que nous sommes, recroquevillé sur nous-mêmes. Et du coup, tout nous devient insupportable, à commencer par Dieu, mais même l'autre à côté. Et on va voir qu'après, ils vont se rejeter la faute l'un sur l'autre, parce qu'à ce moment-là, l'enfer, c'est toujours l'autre. Puisque nous sommes Dieu, nous nous prenons pour Dieu, nous choisissons d'être notre propre Dieu, du coup... La présence même de l'autre, s'il ne nous adore pas, est une offense, est un blasphème. le fait de devoir, de ne pas tout avoir, du coup, c'est pour nous quelque chose d'insupportable, puisque nous sommes Dieu, on devrait tout avoir, on devrait avoir la toute-puissance, on devrait être éternel, on devrait avoir la totale science, jouissance de tout, normalement, dans notre conception. Et du coup, tout devient insupportable. Le fait de travailler pour vivre, avant, il travaillait déjà, puisqu'il cultivait le jardin. Mais on va voir que dans la suite, ça devient une souffrance, c'est quelque chose d'insupportable de devoir travailler. Comment, moi, je suis Dieu, il faut que je me fatigue. C'est contraire à ce critère de bien et du mal qui est que mon seul plaisir de l'instant doit être, est l'ultime. Du coup, c'est un blasphème, c'est une souffrance, si vous voulez. Le fait de devoir donner la vie à ce moment-là. Quoi ? Il y a de la vie qui sort de moi-même. Il y a du vivant en dehors de moi, mais ça devient insupportable puisque je devrais être tout, comme tout bon Dieu qui se respecte, si vous voulez. Et donc, je crois que c'est ça, finalement, le péché fondamental, c'est exactement ce que dit la femme. Mais là encore, je ne crois pas qu'il faille culpabiliser la femme en tant que sexe. La femme, c'est chacun de nous, si vous voulez, bien entendu. On est à la fois et la femme, et Adam, et le serpent, dans cette affaire. Donc c'est la vie en nous, c'est-à-dire c'est notre dynamique de vie, c'est ce qui en nous porte la vie, qui peut tout d'un coup être centré sur son auto-adoration. Ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Fondamental. C'est pour ça que c'est la femme qui est en première ligne, parce que c'est la femme qui est la matrice, qui porte la vie, qui donne la vie, qui est la vivante. Si notre vie, notre dynamique de vie est dans cette façon tordue de voir les choses, dans cette auto-adoration, même pas de soi, mais de son seul plaisir de l'instant, il y a quelque chose là qui est complètement tordu. C'est le moteur même, si vous voulez, qui est grippé. Et ça, c'est un vrai problème. C'est un recroquevillement sur soi qui est mort, en fait. C'est même pas que Dieu condamne à mort. C'est quelque chose qui est tellement dans un cercle vicieux qu'on est d'un coup seul, en fait. Du coup, on est en dehors du jardin parce que le jardin devient tout d'un coup est réduit au millimètre qui est sous nos pieds, puisque nous prenons nous-mêmes pour le jardin. Du coup, on s'en exclut soi-même par le seul regard que nous avons, en fait, sur l'existence, sur le sens de la vie, sur la vérité.
On continue.
Ouais.
Bénédicte. C'était... Or, ils entendirent.
Oui, 8. Le 8.
Oui.
Or, ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin au souffle du jour. L'homme et la femme se cachèrent devant le Seigneur Dieu au milieu des arbres du jardin. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu ?» Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur car j'étais nu et je me suis caché. Qui t'a révélé, dit-il, que tu étais nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais prescrit de ne pas manger ?» L'homme répondit « La femme que tu as mise auprès de moi, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. »
Oh là là, alors c'est terrible.
On peut continuer peut-être.
Oui, c'est réécrit par des prêtres du temple au VIe siècle, mais c'est vrai.
Le Seigneur Dieu dit à la femme, « Qu'as-tu fait là ?» La femme répondit, « Le serpent m'a trompée et j'ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit. » Entre tous les bestiaux et toutes les bêtes des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira à la tête et toi, tu la meurtriras au talon.
Oui. Après, vous avez la série ce qu'on appelle quelquefois les malédictions. Ce qui est intéressant, finalement, au terme de notre parcours, c'est de découvrir, bien sûr, que ce récit, qui a deux versants, il y a un versant ascendant, un versant descendant, décrit en fait toute réalité, c'est-à-dire que toute réalité existentielle, quand on la vit, elle est foncièrement ambiguë, mais on privilégie un éclairage ou un autre, c'est-à-dire qu'on peut être, on peut vivre quand même, heureusement, des moments un peu édéniques, des moments de joie, où on vit une certaine plénitude, soit des sens ou de l'intelligence, une certaine joie, on fait l'expérience de relations amicales qui sont satisfaisantes, qui nous comblent, on fait l'expérience d'une vie familiale ou d'une vie professionnelle ou d'une contemplation esthétique qui, voilà, nous submerge.
Sur le Rialto.
Sur le Rialto, par exemple. Et puis, il y a d'autres moments où, et quelquefois dans la même journée, hein, alors il y a des profils psychologiques qui sont effectivement plus enclins à vivre cette proximité, bien sûr, de la nuit et du jour. Et donc, il y a des moments où on voit les choses plutôt sous l'angle de la désillusion, du désenchantement, de la dureté, du froid, etc. Et puis, du coup, bien sûr, de l'envie, de la convoitise, parce que saint Augustin montre bien que cette honte de l'homme et de la femme a un lien avec tout ce qui en nous n'est pas très clair, c'est-à-dire c'est une honte de s'exposer dans sa fragilité. Là où, dans les moments bienheureux, notre fragilité est heureuse, on consent à notre fragilité et à la montrer à l'autre. Et on vit l'incomplétude comme une condition de notre bonheur. Mais il y a des moments où cette incomplétude devient insupportable. Elle est vue sous l'angle de l'envie, de la jalousie. Pourquoi lui est heureux et pas moi ? Et donc, là où l'incomplétude, quelquefois, est vue comme une richesse, c'est le cas dans l'Éden. Et cet Éden n'est pas perdu, nous pouvons le vivre aussi, bien sûr. Le vers paradis des amours enfantines, bien sûr qu'on le vit. Baudelaire en a parlé, Proust aussi. Mais cette incomplétude, bien souvent, n'est pas vécue comme une richesse, comme une fragilité dont on pourrait se réjouir, mais au contraire comme une pauvreté, comme une misère, comme une frustration, parce que c'est là qu'on commence à regarder ce que l'autre possède, que moi je n'ai pas, etc. Et donc tout le système, toute l'économie de la convoitise, alors évidemment cette économie de la convoitise peut être flattée aussi, bien sûr, par la culture ambiante, par l'économie. Je vous cite juste ce que dit d'ailleurs Marie Balmary, parce que ça m'a frappé. Vous allez croire que c'est une maîtresse à penser pour moi, mais je l'ai redécouverte, à vrai dire.
Non, c'est extra. C'est...
Je l'ai redécouverte en préparant cette lecture. Voilà ce qu'elle dit. « Nous voyons se développer actuellement des pratiques de toute puissance, des actes accomplis dans la soumission à l'usage phallique de la connaissance et de la force dans deux disciplines majeures de notre culture, la génétique et l'économie. » Et donc, le monde de la violence, de la dureté, ou le monde de l'oubli du sujet, hein, c'est-à-dire où on fait des expériences d'apprentis sorciers, et donc une forme de connaissance scientifique dont le sujet a disparu, ou une maîtrise technique de la vie en dehors du relationnel, en dehors de la relation et de la richesse de la relation, ou de l'incarnation, dirait un chrétien, ce que Bernanos appelle la désincarnation du verbe, c'est-à-dire le risque toujours, à partir de nos techniques, de nos organigrammes, de nos fonctionnements, de nos obsessions d'ordre et de désincarner la relation. Une organisation du travail selon une virilité conçue comme courage de faire subir le mal à autrui. Vous voyez qu'elle n'y va pas par quatre chemins et qu'elle voit précisément cette conception violente, virile, dominatrice sur les autres et sur la nature, précisément dans cette chute, c'est-à-dire dans cette difficulté à se laisser humaniser, à accepter et à se réjouir de sa fragilité Et donc c'est là que la nudité, c'est-à-dire la nudité, c'est notre identité profonde. Hein. C'est là qu'elle devient intolérable, qu'elle devient l'objet d'une honte, qu'on la cache, qu'on la voile, qu'on ne veut pas la faire sentir aux autres. Et donc tous les masques de la comédie sociale qu'on endosse sans cesse, hein, parce qu'on est obligé, c'est là que c'est un peu le péché originel quand même. C'est-à-dire qu'on cache cette humanité en nous qui devrait faire notre bonheur et qui finit par faire notre malheur. Ah. Alors que précisément, c'est le lieu même de notre ressemblance avec Dieu, avec celui qui nous a donné. Donc on vit le don, non plus dans la reconnaissance ou la gratitude, mais on vit le don comme un don qui n'est pas total. On n'a pas tout eu. Et donc, on prend le risque de ne pas vouloir accepter l'autre dans ce don, parce que comme on a l'impression que ce n'est pas suffisant, il n'y a plus de place pour l'autre, et donc il n'y a plus de place pour le désir, du coup. Or, le désir est une condition de notre bonheur, le temps de l'Avent nous le rappellera, voilà. Ça brasse beaucoup de choses, hein.
Alors moi, ce que je remarque, c'est que, juste après la chute, Dieu se désintéresse pas de l'humain et il ne cesse pas d'aimer, contrairement à une certaine économie du salut. C'est qu'effectivement, Dieu, moi, d'ailleurs, c'est très beau, il descend avec la brise du soir, si vous voulez. Donc c'est quand même, ça me touche. Je trouve
c'est magnifique.
C'est magnifique, c'est poétique. Et il va vers l'homme et il lui dit « Où es-tu ?» Mais c'est de la pédagogie. C'est Dieu, c'est très bien en fait où en est l'homme. Mais c'est une pédagogie pour dire mais où est-ce que ça te mène ? Où est-ce que t'en es finalement ? Et donc Dieu fait preuve de pédagogie pour essayer de faire prendre conscience à l'homme de vers quoi il va, avec cette façon d'être, avec cette orientation de l'existence, avec cette adoration qu'il a. Et donc là, il y a un appel à une pédagogie. Et finalement, je crois que c'est vraiment là que nous en sommes, dans un certain sens, alors que Adam, il rejette la faute sur d'abord sur Dieu qu'il a mis dans cette situation-là. Hein. Il dit tel quel, il dit c'est la femme que tu m'as donnée, en fait, que tu as placée à côté de moi, c'est ça ? Que tu as mise à côté de moi, au verset 12. Donc il fait rejeter la faute sur Dieu, de l'avoir mis dans ce pétrin lui-même. Et puis la femme, c'est la vie. Comme si, voilà, la vie est ainsi, donc c'est venu comme ça. Il y a cette sorte de déresponsabilisation personnelle. Mais cet essai, cette tentative de Dieu pour responsabiliser. Et ensuite, je crois que finalement, la suite de l'histoire, ça décrit notre présent. Un présent qui est marqué par la difficulté à sentir cette finitude que tu disais. Ou peut-être que rappelle le serpent, toujours en nous, parce que tu n'as pas tout, tu n'as rien. Mais dans cette psychologie-là, effectivement, il n'y a aucune amitié possible, parce que l'âme n'est jamais tout. Il n'y a aucun amour possible de son conjoint, parce que le conjoint à côté, ce n'est pas le prince charmant et la princesse charmante. Un jour, il faut accepter que ce soit un homme vrai, une femme vraie, voilà, avec ses défauts, ses qualités, et qu'on l'assume pour ses qualités, pour ce qu'elle est et pour ce qu'elle peut devenir, et pas pour ce qu'elle n'est pas. Donc, si vous voulez, on est... il faut du coup apprendre à vivre, en fait. Et ce « où es-tu ?» C'est un « où es-tu ?» qui est fondamental. Et sans arrêt, la Bible va travailler sur ce questionnement, va être miroir, une question qui nous est renvoyée pour arriver à se voir soi-même, si vous voulez, à travers ce récit, et se voyant soi-même, sentir ce Dieu qui vient à notre rencontre, particulièrement en Christ, avec la brise du soir, pour nous faire sans cesse... choisir la vie, finalement, nous ouvrir à cette vie, à ce Dieu qui nous recherche, et exaucer ce désir de Dieu pour une fois, c'est-à-dire ce désir de nous voir être heureux, être dans une bonne dynamique de vie, finalement. Bon, ben alors, si c'est comme ça, on a du pain sur la planche, un programme d'activité.
Oui. Et on pourra dire en novembre, crier de joie.
On pourra dire crier de joie en novembre. Alors le programme, il est rappelé sur la petite feuille.
Gaudete.
Avec le Cantique des Cantiques, avec Isaïe. Donc on sera à Saint-Eustache, deux impasses Saint-Eustache. C'est une petite impasse qui donne sur la rue Montmartre, le début de la rue Montmartre, donc au Halles. Et ben, ça sera avec joie de se retrouver. Donc, bon retour et merci beaucoup pour trouver ce bonheur dans notre vie de tous les jours.